Honoré de Balzac, Illusion perdue, 38. À 5 heures du matin, Rastignac vint chercher Lucien. « Mon cher, vous êtes logé dans le système de votre rue, » lui dit-il pour tout compliment. « Soyons les premiers au rendez-vous, sur le chemin de Clignancourt. C'est de bon goût et nous devons de bons exemples. » « Voici le programme, » lui dit de Marsay, dès que le fiacre roula dans le faubourg Saint-Denis. « Vous vous battez au pistolet à 25 pas, marchant à volonté l'un sur l'autre, jusqu'à une distance de 15 pas. Vous avez chacun 5 pas à faire et 3 coups à tirer, pas davantage. Quoi qu'il arrive, vous vous engagez à en rester là l'un et l'autre. Nous chargeons les pistolets de votre adversaire et ses témoins chargent les vôtres. Les armes ont été choisies par les 4 témoins réunis chez un armurier. Je vous promets que nous avons aidé le hasard. Vous avez des pistolets de cavalerie. » Pour Lucien, la vie était devenue un mauvais rêve. Il lui était indifférent de vivre ou de mourir. Le courage particulier au suicide lui servit donc à paraître en grand costume de bravoure aux yeux des spectateurs de son duel. Il resta sans marcher à sa place. Cette insouciance passa pour un froid calcul. On trouva ce poète très fort. Michel Chrestien vint jusqu'à sa limite. Les deux adversaires firent feu en même temps, car les insultes avaient été regardées comme égales. Au premier coup, la balle de Chrestien effleura le menton de Lucien, dont la balle passa à 10 pieds au-dessus de la tête de son adversaire. Au second coup, la balle de Michel se logea dans le col de la redingote du poète, lequel était heureusement piqué et garni de bougran. Au troisième coup, Lucien reçut la balle dans le sein et tomba. « Est-il mort ?» demanda Michel. « Non, » dit le chirurgien, « il s'en tirera. »« Tant pis, » répondit Michel. « Oh oui, tant pis, » répéta Lucien en versant des larmes. À midi, ce malheureux enfant se trouva dans sa chambre et sur son lit. Il avait fallu 5 heures et de grands ménagements pour l'y transporter. Quoique son état fût sans danger, il exigeait des précautions. La fièvre pouvait amener de fâcheuses complications. Coralie étouffa son désespoir et ses chagrins. Pendant tout le temps que son ami fut en danger, elle passa les nuits avec Bérénice en apprenant ses rôles. Le danger de Lucien dura 2 mois. Cette pauvre créature jouait quelquefois un rôle qui voulait de la gaieté, tandis qu'intérieurement elle se disait « Mon cher Lucien meurt peut-être en ce moment. » Pendant ce temps, Lucien fut soigné par Bianchon. Il dut la vie au dévouement de cet ami si vivement blessé, mais à qui d'Arthez avait confié le secret de la démarche de Lucien en justifiant le malheureux poète. Dans un moment lucide, car Lucien eut une fièvre nerveuse d'une haute gravité, Bianchon, qui soupçonnait d'Arthez de quelque générosité, questionna son malade. Lucien lui dit n'avoir pas fait d'autre article sur le livre de d'Arthez que l'article sérieux et grave inséré dans le journal d'Hector Merlin. À la fin du premier mois, la maison Fendant et Cavalier déposa son bilan. Bianchon dit à l'actrice de cacher ce coup affreux à Lucien. Le fameux roman de l'Arche et de Charles IX, publié sous un titre bizarre, n'avait pas eu le moindre succès. Pour se faire de l'argent, avant de déposer le bilan, Fendant, à l'insu de Cavalier, avait vendu cet ouvrage en bloc à des épiciers, qui le revendaient à bas prix, au moyen du colportage. En ce moment, le livre de Lucien garnissait les parapets des ponts et les quais de Paris. La librairie du quai des Augustins, qui avait pris une certaine quantité d'exemplaires de ce roman, se trouvait donc perdre une somme considérable par suite de l'avilissement subi du prix. Les 4 volumes, in 12, qu'elle avait achetés 4 francs 50 centimes, étaient donnés pour 50 sous. Le commerce jetait les hauts cris, et les journaux continuaient à garder le plus profond silence. Barbet n'avait pas prévu ce lavage. Il croyait au talent de Lucien. Contrairement à ses habitudes, il s'était jeté sur 200 exemplaires. Et la perspective d'une perte le rendait fou. Il disait des horreurs de Lucien. Barbet prit un parti héroïque. Il mit ses exemplaires dans un coin de son magasin par un entêtement particulier aux avares et laissa ses confrères se débarrasser des leurs à vil prix. Plus tard, en 1824, quand la belle préface de d'Arthez, Le mérite du livre et 2 articles faits par Léon Giraud eurent rendu à cette œuvre sa valeur, Barbet vendit ses exemplaires un par un au prix de 10 francs. Malgré les précautions de Bérénice et de Coralie, il fut impossible d'empêcher Hector Merlin de venir voir son ami mourant, et il lui fit boire goutte à goutte le calice amer de ce bouillon, mot en usage dans la librairie pour peindre l'opération funeste à laquelle s'étaient livrés Fendant et Cavalier en publiant le livre d'un débutant. Martinville, seul fidèle à Lucien, fit un magnifique article en faveur de l'œuvre. Mais l'exaspération était telle, et chez les libéraux, et chez les ministériels, contre le rédacteur en chef de l'Aristarque, de l'Oriflamme et du Drapeau blanc, que les efforts de ce courageux athlète, qui rendit toujours 10 insultes pour une au libéralisme, nuisirent à Lucien. Aucun journal ne releva le gant de la polémique, quelque vive que fussent les attaques du bravo royaliste. Coralie, Bérénice et Bianchon fermèrent la porte à tous les soi-disant amis de Lucien qui jetèrent les hauts cris. Mais il fut impossible de la fermer aux huissiers. La faillite de Fendant et de Cavalier rendait leurs billets exigibles en vertu d'une des dispositions du Code de commerce la plus attentatoire aux droits des tiers, qui se voit ainsi privé des bénéfices du terme. Lucien se trouva vigoureusement poursuivi par Camusot. En voyant ce nom, l'actrice comprit la terrible et humiliante démarche qu'avait dû faire son poète, pour elle si angélique. Elle l'en aima 10 fois plus et ne voulut pas implorer Camusot. En venant chercher leur prisonnier, les gardes du commerce le trouvèrent au lit et reculèrent à l'idée de l'emmener. Ils allèrent chez Camusot avant de prier le président du tribunal d'indiquer la maison de santé dans laquelle ils déposeraient le débiteur. Camusot accourut aussitôt rue de la Lune. Coralie descendit et remonta, tenant les pièces de la procédure qui, d'après Landau, avait déclaré Lucien « commerçant ». Comment avait-elle obtenu ces papiers de Camusot? Quelle promesse avait-elle faite? Elle garda le plus morne silence, mais elle était remontée quasi morte. Coralie joua dans la pièce de Camille Maupin et contribua beaucoup à ce succès de l'illustre hermaphrodite littéraire. La création de ce rôle fut la dernière étincelle de cette belle lampe. À la 20e représentation, au moment où Lucien, rétabli, commençait à se promener, à manger, et parlait de reprendre ses travaux, Coralie tomba malade. Un chagrin secret la dévorait. Bérénice a toujours cru que, pour sauver Lucien, elle avait promis de revenir à Camusot. L'actrice eut la mortification de voir donner son rôle à Florine. Nathan déclarait la guerre au gymnase dans le cas où Florine ne succéderait pas à Coralie. En jouant le rôle jusqu'au dernier moment, pour Pour ne pas le laisser prendre par sa rivale, Coralie outrepassa ses forces. Le gymnase lui avait fait quelques avances pendant la maladie de Lucien. Elle ne pouvait plus rien demander à la caisse du théâtre. Malgré son bon vouloir, Lucien était encore incapable de travailler. Il soignait d'ailleurs Coralie afin de soulager Bérénice. Ce pauvre ménage arriva donc à une détresse absolue. Il eut cependant le bonheur de trouver dans Bianchon un médecin habile et dévoué qui lui donna crédit chez un pharmacien. La situation de Coralie et de Lucien fut bientôt connue des fournisseurs et du propriétaire. Les meubles furent saisis. La couturière et le tailleur, ne craignant plus le journaliste, poursuivirent ces deux bohémiens à outrance. Enfin, il n'y eut plus que le pharmacien et le charcutier qui fissent crédit à ces malheureux enfants. Lucien, Bérénice et la malade furent obligés, pendant une semaine environ, de ne manger que du porc sous toutes les formes ingénieuses et variées que lui donnent les charcutiers. La charcuterie, assez inflammatoire de sa nature, aggrava la maladie de l'actrice. Lucien fut contraint par la misère d'aller chez Lousteau réclamer les 1000 francs que cet ancien ami, ce traître, lui devait. Ce fut, au milieu de ses malheurs, la démarche qui lui coûta le plus. Lousteau ne pouvait plus rentrer chez lui rue de la Harpe. Il couchait chez ses amis. Il était poursuivi, traqué comme un lièvre. Lucien ne put trouver son fatal introducteur dans le monde littéraire que chez Flicoteaux. Lousteau dînait à la même table où Lucien l'avait rencontré, pour son malheur, le jour où il s'était éloigné de d'Arthez. Lousteau lui offrit à dîner et Lucien accepta. Quand, en sortant de chez Flicoteaux, Claude Vignon, qui mangeait ce jour-là, Lousteau, Lucien et le grand inconnu qui remisait sa garde-robe chez Samanon voulurent aller au café Voltaire prendre du café, jamais ils ne purent faire 30 sous en réunissant le billon qui retentissait dans leur poche. Ils flânèrent au Luxembourg, espérant y rencontrer un libraire, et ils virent en effet un des plus fameux imprimeurs de ce temps, auquel Lousteau demanda 40 francs et qui les donna. Lousteau partagea la somme en 4 portions égales, et chacun des écrivains en prit une. La misère avait éteint toute fierté, tout sentiment chez Lucien. Il pleura devant ces 3 artistes en leur racontant sa situation. Mais chacun de ses camarades avait un drame tout aussi cruellement horrible à lui dire. Quand chacun eut paraphrasé le sien, le poète se trouva le moins malheureux des 4. Aussi, tous avaient-ils besoin d'oublier et leur malheur et leur pensée qui doublaient le malheur. Lousteau courut au palais royal, y jouait les 9 francs qui lui restèrent sur ses 10 francs. Le grand inconnu, quoiqu'il eût une divine maîtresse, alla dans une vile maison suspecte se plonger dans le bourbier des voluptés dangereuses. Vignon se rendit au petit rocher de Cancale dans l'intention d'y boire 2 bouteilles de vin de Bordeaux pour abdiquer sa raison et sa mémoire. Lucien quitta Claude Vignon sur le seuil du restaurant en refusant sa part de ce souper. La poignée de main que le grand homme de province donna au seul journaliste qui ne lui avait pas été hostile fut accompagnée d'un horrible serrement de cœur. « Que faire ? » lui demanda-t-il. « Ah, à la guerre comme à la guerre, » lui dit le grand critique. « Votre livre est beau, mais il vous a fait des envieux. Votre lutte sera longue et difficile. Le génie est une horrible maladie. Tout écrivain porte en son cœur un monstre qui, semblable au ténia dans l'estomac, y dévore les sentiments à mesure qu'ils y éclosent. Qui triomphera ? La maladie de l'homme ou l'homme de la maladie ? Certes, il faut être un grand homme pour tenir la balance entre son génie et son caractère. Le talent grandit, le cœur se dessèche. À moins d'être un colosse, à moins d'avoir des épaules d'Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent. Vous êtes mince et fluet, vous succomberez, ajouta-t-il en entrant chez le restaurateur. Lucien revint chez lui en méditant sur cet horrible arrêt dont la profonde vérité lui éclairait la vie littéraire. « De l'argent !» lui criait une voix. Il fit lui-même, à son ordre, 3 billets de 1 000 francs chacun à 1, 2 et 3 mois d'échéance, en y imitant, avec une admirable perfection, la signature de David Séchard. Et il les endossa. Puis, le lendemain, il les porta chez Métivier, le marchand de papier de la rue Serpente, qui les lui escompta sans aucune difficulté. Lucien écrivit aussitôt à son beau-frère, en le prévenant de la nécessité où il avait été de commettre ce faux, en se trouvant dans l'impossibilité de subir les délais de la poste. Mais il lui promettait de faire les fonds à l'échéance. Les dettes de Coralie et celles de Lucien payées, il resta 300 francs que le poète remit entre les mains de Bérénice, en lui disant de ne lui rien donner s'il demandait de l'argent. Il craignait d'être saisi par l'envie d'aller au jeu. Lucien, animé d'une rage sombre, froide et taciturne, se mit à écrire ses plus spirituels articles à la lueur d'une lampe en veillant Coralie. Quand il cherchait ses idées, il voyait cette créature adorée, blanche comme une porcelaine, belle de la beauté des mourantes, lui souriant de 2 lèvres pâles, lui montrant des yeux brillants, comme le sont ceux de toutes les femmes qui succombent autant à la maladie qu'au chagrin. Lucien envoyait ses articles aux journaux, mais comme il ne pouvait pas aller dans les bureaux pour tourmenter les rédacteurs en chef, les articles ne paraissaient pas. Quand il se décidait à venir au journal, Théodore Gaillard, qui lui avait fait des avances et qui, plus tard, profita de ses diamants littéraires, le recevait froidement. « Prenez garde à vous, mon cher. Vous n'avez plus d'esprit. Ne vous laissez pas abattre. Ayez de la verve, » lui disait-il. Ce petit Lucien n'avait que son roman et ses premiers articles dans le ventre, s'écriaient Félicien Vernoux, Merlin et tous ceux qui le haïssaient quand il était question de lui chez Doria ou au Vaudeville. Il nous envoie des choses pitoyables. Ne rien avoir dans le ventre, mot consacré dans l'argot du journalisme, constitue un arrêt souverain dont il est difficile d'appeler une fois qu'il a été prononcé. Ce mot, colporté partout, tuait Lucien, à l'insu de Lucien. Au commencement du mois de juin, Bianchon dit au poète que Coralie était perdue. Elle n'avait pas plus de 3 ou 4 jours à vivre. Bérénice et Lucien passèrent ces fatales journées à pleurer, sans pouvoir cacher leurs larmes à cette pauvre fille au désespoir de mourir à cause de Lucien. Par un retour étrange, Coralie exigea que Lucien lui amenât un prêtre. L'actrice voulut se réconcilier avec l'Église et mourir en paix. Elle fit une fin chrétienne, son repentir fut sincère. Cette agonie et cette mort achevèrent d'ôter à Lucien sa force et son courage. Le poète demeura dans un complet abattement, assis dans un fauteuil, au pied du lit de Coralie, en ne cessant de la regarder, jusqu'au moment où il vit les yeux de l'actrice tournés par la main de la mort. Il était alors 5 heures du matin. Un oiseau vint s'abattre sur les pots de fleurs qui se trouvaient en dehors de la croisée et gazouilla quelques chants. Bérénice, agenouillée, baisait la main de Coralie qui se refroidissait sous ses larmes. Il y avait alors 11 sous sur la cheminée. Lucien sortit, poussé par un désespoir qui lui conseillait de demander l'aumône pour enterrer sa maîtresse ou d'aller se jeter aux pieds de la marquise d'Espard, du comte du Châtelet, de madame de Bargeton, de mademoiselle des Touches ou du terrible dandy de Marsay. Il ne se sentait plus alors ni fierté ni force. Pour avoir quelque argent, il se serait engagé soldat. Il marcha de cette allure affaissée et décomposée que connaissent les malheureux jusqu'à l'hôtel de Camille Maupin. Il y entra sans faire attention au désordre de ses vêtements et la fit prier de le recevoir. « Mademoiselle s'est couchée à 3 heures du matin et personne n'oserait entrer chez elle avant qu'elle n'ait sonné, » répondit le valet de chambre. « Quand vous sonne-t-elle ? Oh, jamais avant 10 heures !» Lucien écrivit alors une de ces lettres épouvantables où les malheureux ne ménagent plus rien. Un soir, il avait mis en doute la possibilité de ses abaissements quand Lousteau lui parlait des demandes faites par de jeunes talents à Finot, et sa plume l'emportait peut-être alors au-delà des limites où l'infortune avait jeté ses prédécesseurs. Il revint là, imbécile et fiévreux, par les boulevards, sans se douter de l'horrible chef-d'œuvre que venait de lui dicter le désespoir. Il rencontra Barbet. « Barbet, 500 francs ?» lui dit-il en lui tendant la main. « Non, 200 », répondit le libraire. « Ah, vous avez donc un cœur ?»« Oui, mais j'ai aussi des affaires. Vous me faites perdre bien de l'argent, » ajouta-t-il, après lui avoir raconté la faillite de Fendant et Cavalier. « Faites-m'en donc gagner !» Lucien frissonna. « Vous êtes poète. Vous devez savoir faire toutes sortes de vers, » dit le libraire en continuant. « En ce moment, j'ai besoin de chansons grivoises pour les mêler à quelques chansons prises à différents auteurs, afin de ne pas être poursuivi comme contrefacteur et pouvoir vendre dans les rues un joli recueil de chansons à 10 sous. Si vous voulez m'envoyer demain 10 bonnes chansons à boire ou croustilleuses, là, vous savez, je vous donnerai 200 francs. » Lucien revint chez lui. Il y trouva Coralie étendue droite et roide sur un lit de sangle, enveloppée dans un méchant drap de lit que cousait Bérénice en pleurant. La grosse Normande avait allumé 4 chandelles aux 4 coins de ce lit. Sur le visage de Coralie étincelait cette fleur de beauté qui parle si haut aux vivants en leur exprimant un calme absolu. Elle ressemblait à ces jeunes filles qui ont la maladie des pâles couleurs. Il semblait par moments que ses 2 lèvres violettes allaient s'ouvrir et murmurer le nom de Lucien, ce mot qui, mêlé à celui de Dieu, avait précédé son dernier soupir. Lucien dit à Bérénice d'aller commander aux pompes funèbres un convoi qui ne coûta pas plus de 200 francs, en y comprenant le service à la chétive église de Bonne Nouvelle. Dès que Bérénice fut sortie, le poète se mit à sa table, auprès du corps de sa pauvre amie, et y composa les 10 chansons qui voulaient des idées gaies et des airs populaires. Il éprouva des peines inouïes avant de pouvoir travailler. Mais il finit par trouver son intelligence au service de la nécessité, comme s'il n'eût pas souffert. Il exécutait déjà le terrible arrêt de Claude Vignon sur la séparation qui s'accomplit entre le cœur et le cerveau. Quelle nuit que celle où ce pauvre enfant se livrait à la recherche de poésie à offrir aux goguettes en écrivant à la lueur des cierges, à côté du prêtre qui priait pour Coralie. Le lendemain matin, Lucien, qui avait achevé sa dernière chanson, essayait de la mettre sur un air alors à la mode. Bérénice et le prêtre eurent alors peur que ce pauvre garçon ne fût devenu fou en lui entendant chanter les couplets suivants. Ami, la morale en chanson me fatigue et m'ennuie. Doit-on invoquer la raison quand on sert la folie? D'ailleurs, tous les refrains sont bons lorsqu'on trinque avec des lurons. Épicure l'atteste, n'allons pas chercher Apollon. Quand Bacchus est notre échanson, rions, buvons et moquons-nous du reste. Hippocrate, à tout bon buveur, promettait la centaine. Qu'importe après tout, par malheur, si la jambe incertaine ne peut plus poursuivre un tendron, pourvu qu'à vider un flacon, la main soit toujours leste. Si toujours, en vrai biberon, jusqu'à 60 ans nous trinquons, rions, buvons et moquons-nous du reste. Veut-on savoir d'où nous venons? La chose est très facile, mais pour savoir où nous irons, il faudrait être habile. Sans nous inquiéter, enfin, usons, ma foi, jusqu'à la fin de la bonté céleste. Il est certain que nous mourrons, mais il est sûr que nous vivons. Rions, buvons et moquons-nous du reste. Au moment où le poète chantait cet épouvantable dernier couplet, Bianchon et d'Arthez entrèrent et le trouvèrent dans le paroxysme de l'abattement. Il versait un torrent de larmes et n'avait plus la force de remettre ses chansons au net. Quand, à travers ses sanglots, il eut expliqué sa situation, il vit des larmes dans les yeux de ceux qui l'écoutaient. « Ceci, dit d'Arthez, efface bien des fautes.
Heureux ceux qui trouvent l'enfer ici-bas, dit gravement le prêtre.
Le spectacle de cette belle morte, souriant à l'éternité, la vue de son amant, lui achetant une tombe avec des gravelures, Barbet payant un cercueil, ses quatre chandelles autour de cette actrice, dont la basquine et les bas rouges à coins verts faisaient naguère palpiter toute une salle, puis, sur la porte, le prêtre, qui l'avait réconcilié avec Dieu, retournant à l'église pour y dire une messe en faveur de celle qui avait tant aimé, ses grandeurs et ses infamies, ses douleurs écrasées sous la nécessité, glacèrent le grand écrivain et le grand médecin, qui s'assirent sans pouvoir proférer une parole. Un valet apparut et annonça Mademoiselle des Touches. Cette belle et sublime fille comprit tout. Elle alla vivement à Lucien, lui serra la main et y glissa 2 billets de 1 000 francs.
Il n'est plus temps, dit-il en lui jetant un regard de mourant.
D'Arthez, Bianchon et Mademoiselle des Touches ne quittèrent Lucien qu'après avoir bercé son désespoir des plus douces paroles. Mais tous les ressorts étaient brisés chez lui. À midi, le cénacle, moins Michel Chrestien, qui cependant avait été détrompé sur la culpabilité de Lucien, se trouva dans la petite église de Bonne Nouvelle, ainsi que Bérénice et Mademoiselle des Touches, deux comparses du gymnase, l'habilleuse de Coralie et Camusot. Tous les hommes accompagnèrent l'actrice au cimetière du Père Lachaise. Camusot, qui pleurait à chaudes larmes, jura solennellement à Lucien d'acheter un terrain à perpétuité et d'y faire construire une colonnette sur laquelle on graverait Coralie et au-dessous, morte à 19 ans. Lucien demeura seul jusqu'au coucher du soleil sur cette colline d'où ses yeux embrassaient Paris. « Par qui serais-je aimé ? » se demanda-t-il. « Mes vrais amis me méprisent. Quoi que j'eusse fait, tout de moi semblait noble et bien à celle qui est là. Je n'ai plus que ma sœur, David et ma mère. Que pense-t-il de moi là-bas ? » Le pauvre grand homme de province revint rue de la Lune. Et ses impressions furent si vives en revoyant l'appartement vide qu'il alla se loger dans un méchant hôtel de la même rue.
Les 2000 francs de Mademoiselle Destouches payèrent toutes les dettes, mais en y ajoutant le produit du mobilier. Bérénice et Lucien eurent 10 francs à eux, qui les firent vivre pendant 10 jours, que Lucien passa dans un accablement maladif. Il ne pouvait ni écrire, ni penser. Il se laissait aller à la douleur, et Bérénice eut pitié de lui.
« Si vous retournez dans votre pays, comment irez-vous » répondit-elle un soir à une exclamation de Lucien qui pensait à sa sœur, à sa mère et à David Séchard.
« À pied, » dit-il.
« Encore faut-il pouvoir vivre et se coucher en route. Si vous faites 12 lieues par jour, vous avez besoin d'au moins 20 francs. »«
Je les aurai, » dit-il.
Il prit ses habits et son beau linge, ne garda sur lui que le strict nécessaire, et alla chez sa Manon, qui lui offrit 50 francs de toute sa défroque. Il supplia l'usurier de lui donner assez pour prendre la diligence. Il ne put le fléchir. Dans sa rage, Lucien monta d'un pied chaud à Frascati, tenta la fortune, et revint sans un liard. Quand il se trouva dans sa misérable chambre, rue de la Lune, il demanda le châle de Coralie à Bérénice. À quelques regards, la bonne fille comprit, d'après l'aveu que Lucien lui fit de la perte au jeu, quel était le dessein de ce pauvre poète au désespoir. Il voulait se pendre.
« Êtes-vous fou, monsieur ? » dit-elle. « Allez-vous promener et revenez à minuit. J'aurais gagné votre argent.
Mais restez sur les boulevards, n'allez pas vers les quais. » Lucien se promena sur les boulevards, hébété de douleur, regardant les équipages, les passants, se trouvant diminué, seul, dans cette foule qui tourbillonnait, fouettée par les 1000 intérêts parisiens. En revoyant par la pensée les bords de sa Charente, il eut soif des joies de la famille. Il eut alors un de ces éclairs de force qui trompent toutes ses natures à demi féminines. Il ne voulut pas abandonner la partie avant d'avoir déchargé son cœur dans le cœur de David Séchard et prit conseil des 3 anges qui lui restaient. En flânant, il vit Bérénice endimanchée causant avec un homme sur le boueux boulevard Bonne Nouvelle, où elle stationnait au coin de la rue de la Lune.
« Que fais-tu ? » dit Lucien épouvanté par les soupçons qu'il conçut à l'aspect de la Normande.
« Voilà 20 francs qui peuvent coûter cher, mais vous partirez, » répondit-elle en coulant 4 pièces de 100 sous dans la main du poète. Bérénice se sauva sans que Lucien pût savoir par où elle avait passé. Car, il faut le dire à sa louange, cet argent lui brûlait la main et il voulait le rendre. Mais il fut forcé de le garder comme un dernier stigmate de la vie parisienne.